RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À 10 minutes maintenant du départ de cette 17e étape du Tour de France, l'étape la plus excitante de cette grande boucle 2018, au moment où les coureurs sont en train de rallier la ligne de départ, plus exactement la grille de départ. On vous en a parlé durant l'heure précédente, grille de départ où les favoris, les mieux classés au classement général, vont se présenter en tête de grille. Et évidemment, l'honneur de cette tête de grille, la pole position, sera occupée par le maillot jaune en personne, Geraint Thomas, qui est en train de s'approcher de la ligne, accompagné de ses lieutenants qui vont être un peu derrière aujourd'hui, mis à part Chris Froome qui sera juste dans l'ombre de Geraint Thomas. Mais voilà, tout le monde s'approche. Il y a quand même des visages un peu fermés, même si le maillot jaune a l'air assez détendu, Jérôme. Mais tu le disais tout à l'heure en antenne, j'aimerais pas être dans leur peau là, parce qu'il doit y avoir de l'excitation et un peu de crainte.
Ah bah, ils doivent être stressés. Terrible, si j'ose dire. Là, voilà. Bon, finalement, Geraint Thomas, lui, il est un peu stressé par l'étape, mais au moins, il est pas stressé par les accrochages au départ, par le placement et tout ça. Comme tu l'as dit, il est en pole position, donc pour lui, ça va aller. Mais on voit les visages sont fermés, ils roulotent dans l'air d'échauffement, et voilà. Je pense qu'ils sont pressés que ça démarre et que tout ce stress s'évacue.
Les mieux classés au général sont en train de remonter par une petite file sur le côté droit. On va retrouver la moteur MC qui, elle, se trouve un peu à l'avant, évidemment. Tu n'es pas au même niveau que le maillot jaune, Pierre-Yves, avec toutes les motos. Ça doit être un sacré embouteillage, d'ailleurs, au départ de cette étape, non ?
Oui, d'ailleurs, vous parliez de stress avec Jérôme à l'instant. C'est pour les coureurs, mais c'est pour les suiveurs aussi, parce que les habitudes sont changées, tout simplement. Donc voilà, ça perturbe un petit peu tout le monde. Alors nous, on est une centaine de mètres devant cette fameuse ligne de départ, cette grille de départ. Et on attend maintenant les instructions de la direction de course, qui va évidemment nous demander de libérer dans quelques secondes ou quelques minutes la voie pour laisser un petit peu de champ, et comme d'habitude, et puis on pourra rapidement se replacer juste devant les coureurs. Mais pour éviter qu'il y ait un bouchon, on va sans doute être obligé de prendre un petit peu de champ. Marco est prêt, enfin il mange son sandwich, parce qu'il va falloir des forces aujourd'hui dans cette étape de 65 km courte mais intense, évidemment. Et les spectateurs aussi sont présents pour observer, eh bien, les coureurs. Ils les verront bien, puisque comme ils sont placés en position suivant le classement général, ça va leur permettre de voir très rapidement Geraint Thomas, par exemple, ou Chris Froome, ou Romain Bardet dans les premières positions de ce petit peloton.
Alors, Pierre-Yves ne voit pas grand-chose puisqu'il est à l'avant, mais nous, on va pouvoir vous décrire ce qui se passe avec notre écran de contrôle. C'est vrai que ce sont des images inédites sur la route du Tour de France. Fred, c'est sympa de voir une grille de départ comme en Formule 1. Raconte-nous un peu comment les garçons vont être placés. Ils sont en train de se placer d'ailleurs petit à petit.
Alors, les 10 premiers du classement général sont effectivement positionnés sur des emplacements façon MotoGP, Grand Prix Moto, 125-250 ou 500 cm3, avec le maillot jaune Geraint Thomas, qui sera dans un carré symbolisé par des bandes adhésives blanches placées sur la route. Geraint Thomas sera au milieu de la chaussée, en première position, sur sa gauche, en arrière-plan. Geraint Thomas, Christopher Froome, pardon, son dauphin au classement général, sur sa droite à l'arrière, Tom Dumoulin le troisième, et il est à noter qu'en ce moment même, Christopher Froome est positionné à son emplacement, en deuxième position sur cette grille de départ, et à ses côtés, ce n'est pas Tom Dumoulin, c'est un coureur de l'équipe Movistar. Il me semble que c'est Nairo Quintana, le Colombien, qui est en train de potentiellement voler le départ, en tout cas de shipper la troisième place à Tom Dumoulin. Il est venu faire causette, Nairo, avec Christopher Froome, du coup.
C'est la première attaque de Quintana depuis des années.
Et bien voilà cette attaque de Nairo Quintana. En attendant, il est en train de...
Oui, il essaye de passer inaperçu et de rester à cette place-là, mais je pense
discutailler. Est-ce qu'il fomente quoi que ce soit? Ce serait fort étonnant de la part du Colombien. Du Colombien de l'équipe Movistar, qui vient discuter avec Christopher Froome, alors qu'à l'instant, Geraint Thomas vient se positionner en première ligne devant Christopher Froome, sans un regard ou presque pour son coéquipier, son compatriote de la formation Sky, Geraint Thomas, qui laisse Quintana et Froome discuter ensemble et vient mettre son coude sur son cintre jaune, lui qui a casque jaune, maillot jaune. Romain Bardet vient de se positionner positionné au cinquième emplacement, lui qui est cinquième du classement général. Il va falloir que Nairo laisse la place à Tom Dumoulin dans les minutes qui viennent. Départ dans moins de 6 minutes désormais.
Très bien, on va se quitter quelques instants pour ne pas rater le départ de cette 17e étape. Pour tout vous dire, on est assez excité et on espère qu'il va se passer des choses. Georges me disait il y a quelques instants, s'il se passe rien, je n'aime plus le Tour de France. Voilà, mais on va l'aimer le Tour de France cet après-midi avec cette 17e étape et ce départ style Formule 1 dans 6 minutes maintenant.
RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À 4 minutes du départ du Grand Prix du Tour de France avec cette 17e étape et les coureurs du Tour de France qui sont positionnés sur une grille de départ en pole position de cette 17e étape. Le maillot jaune de Geraint Thomas qui a l'air décontracté, qui regarde mais qui ne voit pas grand monde devant lui à part les suiveurs, les motos, les coureurs. Tous les autres coureurs du Tour de France sont placés derrière lui pour ce départ. Alors il y a aussi la nouveauté, Fred, c'est qu'il y a une arche de départ, alors que d'habitude, le départ se faisant en roulant, c'est un drapeau qu'agite Christian Prudhomme. Là, on ne sait pas exactement si les feux rouges vont s'éteindre et en libérant les bolides, ou alors s'il y aura un coup de starter. Mais en tous les cas, voilà, ce sont des images inédites sur la route du Tour de France.
Oui, pour l'instant, ce sont des feux orange qui clignotent sur l'écran géant qui jouxte cette arche qui a été installée pour le départ de cette étape très particulière. On vous rappelle que c'est la première fois dans l'histoire du cyclisme qu'un départ de course est donné sous ce format-là, un format inédit avec effectivement Geraint Thomas en toute première ligne, à ses côtés, à sa gauche, Christopher Froome et Primoz Roglic à l'arrière. Cela fait comme s'il y avait des éventails, mais l'ensemble de la route est occupée avec à la droite de Geraint Thomas, Tom Dumoulin. Effectivement, Geraint Thomas était décontracté il y a quelques instants puisque Christopher Froome avait quitté Nairo Quintana avec qui il était en grande discussion. Christopher Froome est venu lui toucher deux mots. Christopher Froome qui discutait, Geraint Thomas qui écoutait son dauphin coéquipier et compatriote de la formation Sky. Mais Geraint Thomas semble tout à fait concentré, au contraire de certains coureurs qui, à l'arrière de ce peloton, en deuxième ligne derrière le top 10 du classement général ou dans les sas un peu plus loin, sont en train de se saluer, de discuter. Geraint Thomas ne parle avec personne, il est dans sa bulle et il a peut-être un avantage, Geraint Thomas, aujourd'hui au départ de cette étape très particulière. Il n'y aura pas de tour de chauffe, contrairement au Grand Prix F1, au Grand Prix Moto. Et Geraint Thomas est là dans une configuration où il devra être performant, attentif d'entrée de jeu. Et lui, le pistard qui connaît cette routine des poursuites individuelles, est totalement dans son élément.
Voilà, une minute nous annonce Radio Tour, une minute avant le départ. Les feux sont passés au rouge, désormais ils clignotaient à l'orange. Il y a quelques instants, ils sont donc passés au rouge. Geraint Thomas en première ligne, avec dans son sillage sur sa gauche, Christopher Froome, sur sa droite, Tom Dumoulin. Derrière Tom Dumoulin, on trouve Romain Bardet qui est bien placé. Et la différence avec les autres étapes de montagne, c'est que les autres coéquipiers, les équipiers de la formation Sky sont rétrogradés un peu plus loin. Ils vont donc devoir remonter très rapidement pour tenter d'épauler leur leader s'ils parviennent à le faire. Et on va voir si la bagarre débute tout de suite. Les coureurs qui n'ont pas encore mis leurs chaussures dans les cale-pieds.
Alors, justement, Christophe, il y a un coureur du top 10 qui est calé, qui a mis ses chaussures dans les pédales automatiques, prêt à dégainer. C'est Primoz Roglic, le quatrième du classement général, qui est en appui sur la barrière et qui a déjà chaussé.
Montez le volume et rendez-vous au premier lacet de cette 17e étape du Tour de France. Voilà, départ lancé donc dans cette 17e étape du Tour de France. Il n'y a pas eu d'attaque pour le premier virage, pour le premier lacet, Fred.
Non, mais le peloton est en train de s'élancer dans l'ordre du classement général. Il n'y a pas d'accélération. Si, sur la droite de la route, un coureur de l'équipe Direct Energy, il ne faisait pas partie du top 10. Il était probablement dans un sas derrière. C'est évidemment Lilian Calméjane, le dynamiteur albigeois, qui est donc le premier attaquant à la sortie de Bagnères-de-Luchon. On vous rappelle qu'il n'y a que 100 mètres en faux plat montant aujourd'hui à la sortie de ce départ avant d'attaquer la montée de Peyragudes classée en première catégorie.
Voilà, tout le monde qui tente de s'extraire du peloton, en tous les cas, ceux qui vont jouer l'échappée, les leaders du classement général, regardent, surveillent du coin de l'œil s'il n'y a pas quelques gros clients qui tentent de partir à l'assaut des montagnes, Jérôme.
Ouais, c'est ça, et on a vu que Kwiatkowski et Bernal étaient déjà à l'avant du peloton, donc ils ont réussi à prendre un bon départ et à remonter aux côtés de leur leader.
Voilà, il n'y a pas eu de départ comme en Formule 1, on s'y attendait un peu, hein. C'est vrai que c'était plus une mesure gadget, mais en tous les cas, les images étaient très sympathiques. On va voir ce qu'il en est à l'avant de la course, peut-être avec la moto RMC, je ne sais pas où elle est placée et si elle voit quelque chose. Pierre-Yves.
Alors on est juste un peu devant la course, on va les attendre là maintenant. Ils arrivent, voilà, d'abord la première voiture rouge, celle de Christian Prudhomme qui ouvre la route, le régulateur qui est juste derrière nous, on va essayer d'apercevoir, voilà, Lilian Calmejane dans un instant, ou les premiers coureurs en tout cas qui vont sortir de ce groupe pour le moment. Pas de visu, il y a beaucoup de motos encore, on va attendre un petit peu pour avoir un petit peu de visibilité dans cette course. Ah, ça y est, les premiers coureurs qui arrivent, un petit groupe qui est devant maintenant en train de se positionner, mais je suis bien incapable de vous dire qui est là.
Il y a du beau monde, il y a notamment Thomas Degen qui est à l'avant chaque étape, avec également Pierre Roland, le favori de Fred aujourd'hui, un coureur de la formation Astana. À noter Fred, que Arnaud démarre dès les premiers hectomètres de cette 17e étape et dans la même situation qu'hier, c'est-à-dire qu'il est largué à l'arrière du peloton. La journée va encore une fois être très longue pour les leaders de la formation Groupama FDJ.
Oui, le sprinter Picard qui avait terminé l'étape d'hier à Bagnères-de-Luchon à 41 minutes du vainqueur du jour, Julien Alaphilippe. Nouvelle journée très très longue a priori pour Arnaud Démare, même si l'étape, on vous le rappelle, ne fait que 65 km aujourd'hui. Étape au format très ramassé, très nerveux, 65 km au menu en direction de Saint-Lary-Soulan, le col du Portet, col inédit sur la route du Tour, trois ascensions sur ces 65 km, la montée de Péragude, le col de Val-d'Oron-Azet, tous deux classés en première catégorie, et la montée finale classée hors catégorie. Les coureurs dans la montée de Péragude avec, après 800 mètres de course seulement, déjà un groupe qui se détache. Le premier attaquant, ce fut Lilian Calmejane, le coureur de la formation Direct Énergie. Il a été accompagné par des coureurs français, notamment Julien Bernard et Pierre Roland. En ce moment, c'est un trio qui est en train de se détacher, avec Tanel Kangert chez Astana, Thomas De Rent, le belge baroudeur de l'équipe Lotto Soudal, et Pierre Roland qui poursuit son effort. Il y en a un petit peu partout sur la route dans ces premières pentes de la montée de Péragude. On aperçoit Franco Pellizzotti, le coureur vétéran de l'équipe Bahrain Merida, Lilian Calmejane un peu plus loin. C'est bel et bien un trio Kangert, De Gendt, Roland qui est en train de prendre un tout petit peu de champ.
Voilà, et derrière, les favoris pour la victoire finale se trouvent tous groupés. On a là évidemment Christopher Froome et Geraint Thomas, Romain Bardet, Roglic, Dumoulin et les autres. Pour l'instant, pas d'attaque. Bon, Cyril, pour ceux qui espéraient une attaque dès le kilomètre zéro, bah, il faudra ranger ses illusions. De toute façon, c'était quand même assez peu crédible.
Oui, et les positions dans le peloton ont été reprises comme si nous étions sur du plat. Nous avons donc l'équipe Sky qui est venue se positionner et qui observe les différentes accélérations, mais pour l'instant ils sont parfaitement sereins.
Alors aujourd'hui on espère qu'il y aura des attaques, on vous le disait Jérôme, mais probablement pas tout de suite, sans doute vers le dernier col de la journée dont on vous parlait tout à l'heure, qui sera particulièrement difficile, le col de Portet, avec ses 16 km d'ascension qui ressemble un peu à un mini Ventoux, même pas un mini Ventoux, un Ventoux grand comme le Ventoux, grand comme le géant de Provence, et qui sera le dernier col de la journée tout à l'heure.
Ah, c'est parti pour ça, hein. Geraint Thomas et Christopher Froome ont retrouvé leurs équipiers, ils impriment leur tempo, donc voilà, ça va être un gros tempo toute la journée, et certainement la bagarre dans le dernier col, en espérant que ça attaque vraiment au début du dernier col et pas dans les derniers kilomètres.
La formation Sky quasiment dans son ensemble qui s'est positionnée au premier rang du peloton, Fred.
On est en configuration à nouveau classique après seulement 1,7 km parcouru dans cette 17e étape du Tour. Effectivement, un groupe est en train d'essayer de se détacher, avec notamment l'Estonien Tanel Kangert, on l'a dit, l'Italien Franco Pellizzotti, on aperçoit Marc Soler, l'Espagnol de l'équipe Movistar, Thomas Degen fait toujours partie des coureurs les plus audacieux, valeureux, attaquants au long cours, et effectivement, Geraint Thomas a récupéré sa garde Sky autour de lui. Il reste 63 km à parcourir, on est toujours dans les premières pentes de la montée de Péragude et le train Sky s'est déjà mis en place. Le départ façon Formule 1, façon MotoGP, on peut le dire dès maintenant, a fait pchit.
Et oui, malheureusement, pour ceux qui espéraient une attaque dès le départ des outsiders, eh bien, ça n'a pas été le cas. Cyril, tu nous l'annonçais d'ailleurs depuis quelques heures maintenant, hein.
Oui, la muraille blanche s'est remise en position. Les 7 coureurs Sky sont en tête de peloton et ont laissé partir à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de coureurs, mais pas de coureurs dangereux.
Alors, quelle tactique pour ceux qui ambitionnent de décrocher le maillot jaune aujourd'hui? Est-ce que ils sont complètement résignés ou est-ce qu'il va y avoir quand même de la bagarre? Et à quel endroit, à ton avis, dans le dernier col du jour?
Moi, je pense que la vraie bagarre peut se déclencher dans la dernière ascension, devrait logiquement, de toute façon. Et si elle part avant, elle partira sur des mouvements de course, peut-être involontaires. On sait que la descente de Val-d'Oron est relativement gravillonnée.
La moto RMC, Pierre-Yves Leroux qui se trouve à l'avant de la course en compagnie peut-être de l'homme de tête, Kangert, le coureur de la formation Astana.
Exactement, Kangert qui a une dizaine de secondes d'avance sur un petit groupe et le peloton qui est derrière à 25 secondes ou ce qu'il en reste puisqu'il y a déjà des garçons qui sont détachés comme Alexander Kristoff, le champion d'Europe. Il y en a qui vont souffrir derrière, ça va souffrir devant évidemment, mais derrière aussi il y a des inquiétudes évidemment pour les sprinteurs.
Voilà, inquiétude pour les sprinteurs dont Arnaud Démare fait partie, lui qui hier est arrivé avec plus d'une demi-heure de retard, qui rentrait dans les délais, mais il s'en est fallu pour 12 minutes je crois, hein, Jérôme. Aujourd'hui les délais, tu nous en parlais tout à l'heure, seront à peu près de 35 à 40 minutes, c'est
ouais,
ça?
Même plutôt 30 à 35 minutes, ça va dépendre à quelle allure ils vont rouler. Mais aujourd'hui, paradoxalement, je suis un peu moins inquiet pour Arnaud parce que cette étape, elle fait peur à tous les sprinters. On arrive en fin de tour, il y a de la solidarité. Quand ça part en bosse comme ça, il va y avoir un gros groupe étau qui devrait se former et ils vont gérer les délais comme ça. Donc à mon avis, ça devrait jouer pour Arnaud.
Et pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sky sont à l'avant de la course. Ils sont quasiment tous là, Fred. La garde rapprochée de Geraint Thomas et de Chris Froome s'est mise en place à l'avant du peloton, alors que Julian Alaphilippe remonte sur le côté droit et va tenter de s'échapper. Julian Alaphilippe, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, qui n'est pas encore assuré, Fred, de ramener ce maillot à poids sur les Champs-Élysées. S'il franchit un ou deux cols en tête tout à l'heure, ce sera quasiment définitif pour lui.
Hein. Oui, mathématiquement, il n'est effectivement pas assuré de ce maillot à poids de meilleur grimpeur, mais sur ce qu'il a démontré dans les Alpes et hier en direction de Bagnères-de-Luchon, on voit mal qui pourrait lui contester ce statut de leader du classement de la montagne. Julian Alaphilippe qui sort du peloton, un peloton qui est relégué à 40 secondes de l'homme de tête, l'Estonien Tanel Kangert de l'équipe Astana. À une dizaine de secondes, on trouve une douzaine de coureurs, parmi lesquels Lilian Calmejean et Pierre Roland les Français. Il me semble que Rudy Mollard est également là, côté Arthur Vichot. Plutôt que Rudy Mollard
Peut-être les deux. Arthur Vichot sûr.
Pour sûr, oui. Également présent, attention, le Britannique Adam Yates qui hier était en position de gagner avant de chuter dans la descente du Portillon. Notez également la présence, et c'est intéressant, non loin de la frontière espagnole en cette étape décisive, d'Alejandro Valverde dans le groupe de contre-attaque derrière Tanel Kangert, un groupe qui prend raisonnablement du champ avec 30 secondes d'avance sur le peloton, un peloton conduit par les Sky. Notez la présence également dans ce groupe de tête juste derrière Tanel Kangert de Gorka Izaguirre, le champion d'Espagne, Bauke Mollema, Rafał Majka, le polonais, le trio Ede, Herrada et Navarro chez Cofidis, l'italien Pellizzotti qui est le vétéran du Tour, un équipier pour Valverde, Marc Soler au sein de la formation Movistar, Omar Fraile est le vainqueur de l'équipe de l'étape de Mende, pardon, samedi dernier, et Simon Geschke, l'allemand de la formation Sunweb. Vous le voyez, ça bouge pas mal quand même, c'est normal, c'est une étape au format mini-mini. C'est exactement ce que voulaient les organisateurs du Tour, des attaques dès le kilomètre zéro en montagne. Encore 3 ascensions majeures à escalader, on vous le rappelle aujourd'hui.
Et encore 61 km à parcourir dans cette 17e étape du Tour de France. Cyril, on a vu pas mal de baroudeurs tenter leur chance il y a quelques instants et qui possèdent une cinquantaine de secondes d'avance maintenant sur l'avant-garde du peloton. Est-ce qu'aujourd'hui, les baroudeurs peuvent se faire des illusions et peuvent espérer remporter l'étape?
Sur 65 km, oui, tout dépend le matelas qu'on va leur laisser au sommet du premier col, parce qu'ensuite vous avez une descente où les hommes de tête et le peloton vont rouler à la même vitesse. S'il n'y avait pas de bagarre dans le deuxième col, alors effectivement des hommes de l'échappée pourraient aller chercher la gagne.
Et des coéquipiers de Romain Bardet sont en train d'essayer de prendre l'échappée. On a vu Mathias Franck notamment se positionner à l'avant de la course, peut-être un point de repère pour Romain Bardet, un relais pour un peu plus tard dans l'étape.
C'est ça, un relais pour Romain quand il portera son attaque dans le final, on espère. Il est en train de rentrer avec Romain Sicard et Atapuma. Voilà, c'est plutôt une bonne option et on verra si ça sera bénéfique.
Très bien, 15h26, oui. Le premier top course de cette 17e étape du Tour de France. Fred, la situation est à peu près décantée après 4 km de course seulement.
Oui, et contrairement à ce que dit à l'instant Radio Tour, ce n'est pas l'Espagnol Dani Navarro qui est avec l'Estonien Tanel Kangert, mais bel et bien le Français Nicolas Hédet et Kangert duo de tête avec juste derrière eux à une quinzaine de secondes. Des coureurs comme Alaphilippe, comme Thierry Roland, comme Lilian Calvejane, comme Gorka Izagirre, Alejandro Valverde, Rafał Majka, Arthur Vichot, Rudy Mollard ou Bauke Mollema. Le trio Mathias Franck, Romain Sicard et Atapuma est juste en train de rentrer dans cette contre-attaque et le peloton maillot jaune admirablement conduit, et c'est un euphémisme par les Sky de Geraint Thomas, pointe à 1 minute, on est à 60 km de l'arrivée.
La moto RMC, Pierre-Yves Leroux à l'avant de la course.
Avec les deux hommes, effectivement, Radio Tour a corrigé en écoutant Fred Adam, parce que ça marche dans les deux sens en fait, donc c'est pratique, et c'est effectivement Nicolas Hédet qui est avec Kangert juste derrière nous, un petit écart, une vingtaine de secondes avec le groupe derrière où il y a pas mal de beau monde et notamment les Movistar qui pourraient pourquoi pas préparer un coup, une préparation pourquoi pas, un peu de stratégie parce qu'on est un peu déçu par ce départ, donc on espère qu'il va y avoir un petit peu de feu d'artifice derrière. Il y a 1 minute de retard pour le peloton à l'instant.
Voilà, il reste 60 km à parcourir dans cette 17e étape du Tour de France. L'ascension de la première difficulté du jour, le col de Peyresourde qui sera suivi de la montée vers Peyragudes. On se retrouve dans quelques instants sur la route du Tour pour cette étape. Bon, pour l'instant, on est un peu déçu, il faut bien le dire. Ce départ très excitant n'a pas donné lieu à la bagarre que l'on espérait sans trop y croire. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Au programme aujourd'hui de la Grande Boucle 2018, la 17e étape entre Bagnères de Luchon et Saint-Lary-Soulan, le col du Porté, où sera jugé dans 59 km maintenant l'arrivée de cette 17e étape, un départ dont on attendait monts et merveilles et qui malheureusement s'est réduit à un départ mouillé ou un pétard mouillé, c'est comme vous voulez, puisque les grands favoris du classement général, comme on pouvait le craindre, eh bien n'ont pas attaqué. Jérôme Coré, il fallu, que faudrait-il faire pour assister à une vraie bagarre? Tu le disais tout à l'heure, un départ en descente. Voilà, pourquoi pas.
Et là, on aurait été sûr qu'en bas, il y aurait eu des cassures. Non, c'était un peu sur le ton humoristique, mais après ou alors démarrer au pied d'un col vraiment raide, d'un mur, parce que là, les premières pentes, ça monte, mais c'est pas vraiment dur. Là, les coureurs vont arriver dans la partie la plus dure du col. Et voilà, là, il va y avoir des attaques et on espère que ça bougera derrière.
Ouais, ou alors faire une étape avec une course de côte en quelque sorte, un seul col à attaquer.
Une montée sèche, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Hein,
c'est, voilà, des étapes de 10
km. Si
ASO
veulent des idées, ils peuvent passer au camion. Donc,
voilà, on a toujours des idées, mais en tous les cas, c'est vrai que ça doit être un peu désespérant, Cyril, pour les organisateurs qui avaient donc inventé ce nouveau format, qui en était espéré monts et merveilles. Bah voilà, les coureurs font ce qu'ils veulent et la formation Sky fait ce qu'elle veut. Elle a décidé de se porter à l'avant, elle a décidé de rassembler tout son petit monde à l'avant de la course et ça a été fait en 2 temps 3 mouvements. Cyril? Oui, toujours.
Avec le micro, avec
toujours
le
pas
micro.
De micro. Ça, il n'y arrivera pas.
Le principe était excitant, sauf que les coureurs, vous mettez ce que vous voulez, c'est quand même les coureurs qui décident. Mais moi, je pense, même si certains autour de cette table ne sont pas d'accord, c'est que la descente fait partie de la compétition cycliste. Et pourquoi ne pas faire une descente de 10 ou 15 kilomètres et une arrivée au sommet du col d'après? Ça aurait peut-être beaucoup plus de gueule.
Voilà. Et pourquoi pas un classement du meilleur descendeur aussi?
Mais il faut faire un classement du derrière. Mais attendez, on dit aujourd'hui que c'est Alaphilippe qui descend le plus vite. Moi, je veux bien, mais qu'on le prouve.
Non, mais après, faut pas tirer de conclusion maintenant. On a fait 10 kilomètres. On peut,
le départ
a pas été spectaculaire, mais on pouvait s'y attendre. Par contre, la suite de l'étape, on sait pas ce qui va se passer. Il va peut-être y en avoir partout.
On l'espère, évidemment. On espère qu'on va pas rester sur cette impression un peu désolante de ce départ dont on attendait monts et merveilles et qui s'est transformé donc en pétard mouillé. L'avant de la course, la moto RMC, Pierre-Yves Leroux en compagnie des deux hommes de tête.
Toujours un petit écart effectivement pour les deux hommes et puis derrière il y a des garçons qui ont du mal à suivre le groupe de contre. On va surveiller ceux qui sont pas dans le coup, notamment Mathias Franck semble-t-il, un petit groupe de quatre qui est en train d'essayer de revenir avec Alaphilippe. Donc les deux hommes sont là juste à côté de nous et puis le petit groupe de 4 à 20 secondes avec Julien Alaphilippe. Alaphilippe notamment pour aller chercher évidemment quelques points supplémentaires pour conforter son maillot. Une portion un peu à l'ombre, ça va faire du bien aux coureurs et notamment à Nicolas Hédé et Kangart qui sont là sur la gauche de la route. Pas trop de public, en tout cas c'est calme pour le moment. Ça va changer très certainement plus on va approcher des sommets et ça sera le cas dans la dernière montée parce qu'on l'a observé dès hier, il y a énormément de camping-cars.
Oui, des camping-cars dans le col de Peyresson notamment.
Et oui, pour les spectateurs, c'est une configuration particulière également. L'étape ne fait que 65 km. Donc lorsque vous êtes à Bagnères-de-Luchon, vous êtes pas loin, vous êtes au pied de la montée de Péragude, du col de Peyresourde, hein, c'est la même montée, mais vous n'êtes pas loin non plus de Val-Louron-Azay, qui est la deuxième difficulté de la journée, et par essence, pas loin non plus du col du Portet, où se jouera peut-être le Tour de France. Donc quel intérêt de se positionner dans le tout premier col? Il est beaucoup moindre lorsqu'on a qu'une trentaine, une quarantaine de kilomètres à faire en camping-car ou en voiture pour aller dans la montée finale du Tour de France, de l'étape Rennes du Tour 2018, ça vaut peut-être le coup de se déplacer. Et c'est sans doute ce qu'ont fait les spectateurs aujourd'hui. Plutôt que de choisir la solution de facilité, ils se sont dit, c'est pas si loin l'arrivée de l'étape aujourd'hui, on y va.
Ouais, lorsqu'on est passé hier soir au sommet de Peyresourde, il y avait très peu de monde dans la montée, il y avait quand même pas mal de camping-cars, mais il y a un peu plus de monde dans le col de Val-Louron qu'on a franchi en revanche ce matin, et il y aura vraisemblablement encore plus de monde tout à l'heure dans le col du Portet.
Oui, on parlait tout à l'heure, vous évoquiez l'hypothèse d'une étape avec une montée sèche, une course de côte quelque part. Ça a déjà eu lieu sur la route du Tour, c'était en 1971, l'année où Louis Ocagna avait perdu le Tour dans la descente du col de Mantet. L'étape était partie justement de Bagnères-de-Luchon me semble-t-il, avec arrivée à Super Bagnères, une étape de 19,5 km, quelque chose comme ça, Cyril, tu me le confirmes. La montée vers Super Bagnères fait 18,6 km, donc vous le voyez, il y avait moins d'un kilomètre d'échauffement, puis la montée finale vers Super Bagnères. Cela a donc été déjà expérimenté. Il faudrait demander aux participants ou aux observateurs de l'époque si cela avait donné davantage de spectacles que cette étape de 65 km entre Bagnères-de-Luchon et le col du Portet. Mais ces observateurs ou ces participants, pour cela, encore faudrait-il qu'ils ouvrent leur micro, Cyril.
Merci de
me rappeler
qu'il faut ouvrir le micro
et le fermer aussi de temps en temps.
Et le fermer de temps en temps. Oui, puisque je dois faire huitième de cette étape qui avait été gagnée par Fuentes, qui avait d'ailleurs gagné l'étape la veille.
Neuvième, tu exagères toujours. Hein.
Oui, j'exagère.
Il a essayé de gruger comme les coureurs tout à l'heure au départ qui ont essayé de
montrer dans le sarré. Je pourrais expliquer quand même un peu. Bon, maintenant que mon micro est ouvert.
Qui arrive sur la moto?
Oui, juste pour dire que Kangert part tout seul, Nicolas Hédé qui n'arrive pas à suivre, et à 15 secondes on aperçoit Julien Alaphilippe, le coureur de l'équipe Cofidis, Nicolas Hédé qui n'arrive pas à suivre le rythme de Kangert.
Cyril, ton explication donc sur ces vieux souvenirs du Tour de France.
Voilà, et entre donc le premier et le neuvième, il devait y avoir une minute. Il y avait les coureurs avaient fini un par un, puisqu'il y avait Van Nîmes qui devait faire deux ou trois, Zoutemelk, Merckx avait perdu du temps également, puis Merckx devait finir. Il finissait juste devant moi, donc voilà. Mais ça avait fait du dégât. En fait, ça avait été une vraie course de côte, et on avait fini un par un.
Eh ben, on va voir si le...
Donc du spectacle.
Exactement. On va voir si le spectacle sera également au rendez-vous tout à l'heure. Julien Alaphilippe dans un groupe de contre-attaque à une vingtaine de secondes derrière l'homme de tête, Fred.
15 secondes exactement pour le héros d'hier en direction de Bagnères-de-Luchon, vainqueur de sa deuxième étape à 26 ans après son succès dans les Alpes au Grand Bornand. Julien Alaphilippe, qui porte évidemment une nouvelle fois le maillot à poids de meilleur grimpeur sur le dos aujourd'hui. Un homme seul en tête à 56 km de l'arrivée vers Peyragude. dans le col de Perrosur très exactement. L'Estonien Tanel Kangert de l'équipe Astana compte exactement 17 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque où l'on trouve donc Julien Alaphilippe, Lilian Calmejane, Pierre Roland, Thomas De Gendt le Belge, Geschke l'Espagnol, le champion d'Espagne Izaguirre. Attention au duo de l'équipe Movistar, Valverde et Soler. Arthur Vichot et Rudy Mollard sont également là côté français. Bauke Mollema ou Adam Yates. Vous voyez qu'il y a des outsiders qui ont tenté leur chance aujourd'hui, des favoris presque si l'on considère que Valverde, qui était, si je ne m'abuse, 11e du classement général ce matin, ont tenté leur chance. Il reste 56 km de l'arrivée. Derrière Kangert, un groupe est en train de se constituer avec Nicolas Hédé, Julien Alaphilippe,
Durasek
le Croate
et Errada.
Et Jesús Errada, l'ancien champion d'Espagne. Il y a deux Cofidis dans cette contre-attaque.
Voilà, et c'est Julien Alaphilippe qui a permis à ces trois-là de revenir sur Hédé, qui a donc été lâché par Kangert. Il navigue à une quinzaine de secondes derrière l'homme de tête, Julien Alaphilippe. Jérôme n'est jamais fatigué. C'est quand même étonnant, ce garçon qui hier a fait un numéro extraordinaire et qui là encore aujourd'hui, au départ de cette étape, va tenter d'aller chercher, peut-être pas la victoire d'étape, mais en tous les cas, les points du classement de la montagne pour être assuré de ramener le maillot à poids à Paris.
Ah, c'est ça, il est dans la forme de sa vie avec les bons résultats qu'il a, il est en confiance, il voit qu'il fait partie des meilleurs du Tour de France. Et voilà, là, il part pour consolider son maillot à poids, donc il prend les échappées pour la victoire d'étape. Comme tu l'as dit, ça risque d'être limite s'il y a la grosse bagarre derrière entre les favoris, mais en tout cas, il montre encore une fois le maillot, il montre son tempérament et il nous étonne de jour en jour.
Bon, les favoris, justement, on va s'y intéresser un petit peu. Fred, toujours la même situation à l'arrière, enfin pas à l'arrière, mais en tête de peloton maillot jaune, toujours la garde rapprochée, la garde blanche de Geraint Thomas et de Chris Froome.
Oui, à 2 minutes exactement de la tête de course, c'est-à-dire à 2 minutes 30, 2 minutes 40 de la contre-attaque, où Julien Alaphilippe en fait peut-être un peu beaucoup. En tout cas, là, il se met en réserve à l'arrière de ce groupe de contre-attaque composé de 4 coureurs, Hédé, Errada, Durasek et Alaphilippe, à 5 km de Peyragudes, effectivement, dans le groupe maillot jaune. Pas de surprise, hein, ce départ en grille de Grand Prix n'a rien changé à la donne. Geraint Thomas, le maillot jaune, et Christopher Froome ont rapidement vu leurs coéquipiers au maillot blanc et noir venir, tels des abeilles, venir reconstituer les seins. La garde blanche et noire est bel et bien en ordre de marche.
Julien Alaphilippe, accompagné de ses trois compagnons d'échappée, Durasek, Hédé et Errada, qui passe un instant même sous la banderole indiquant les 5 derniers kilomètres de ce col, la montée de Peyragudes à l'avant de la course. Pierre-Yves.
Ouais, ils ont vu sur Kangert ce petit groupe avec Julien Alaphilippe. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans des grandes lignes droites pour le moment. La pente n'est vraiment pas très difficile et Kangert qui appuie et pour l'instant qui poursuit son effort. Col de Peyresourde, nous sommes à 3 km du sommet, mais il faudra poursuivre un petit peu dans la montée de Peyragudes ensuite. Et on aperçoit là devant nous, et Kangert va pouvoir les apercevoir également, les fameux virages, les lacets qui emmènent vers cette montée de Peyragudes où on trouve beaucoup de spectateurs. Et ça va changer dans quelques minutes maintenant pour lui, avec des gauches, des droites après cette longue ligne droite d'encore un bon kilomètre.
Encore un bon kilomètre de ligne droite et ensuite effectivement quelques petits lacets. Kangert qui est donc seul en tête avec 22 secondes d'avance désormais sur les trois coureurs qui sont en contre-attaque, puisque Hédé a été lâché à son tour. Durasek, Alaphilippe et Errada. Et un peu plus loin, Fred, un peu plus loin, un autre peloton, un autre groupe de contre-attaque avec quelques Français dedans, dont notamment Pierre Roland qui était parti tout à l'heure tambour battant, mais qui est un peu rétrogradé désormais.
Oui, Pierre Roland, Lilian Calmejane, Alejandro Valverde et Marc Soler, le duo de l'équipe Movistar. Ce groupe d'une dizaine d'unités navigue à une minute de l'homme de tête, c'est-à-dire à un peu plus de 30 secondes d'un trio. Donc ils ne sont plus 4 mais bien 3, puisque Nicolas Hédé a été décroché. Il y a Julien Alaphilippe, le maillot à poids de meilleur grimpeur, Jesús Errada et Christian Durasek, le croate de l'équipe Emirates. Ces trois coureurs sont à 20 secondes de l'homme de tête Kangert. Et effectivement, ce groupe de contre-attaque où l'on trouve notamment Bauke Mollema, Alejandro Valverde, Marc Soler, Pierre Roland, le champion d'Espagne, pardon, Gorka Izaguirre ou Arthur Vichot, et lui à une minute. Le peloton ne lâche pas grand chose, 2,25 à 4 km du sommet.
Alors on va s'amuser. s'amuser à prendre les paris, non pas pour la victoire d'étape, mais pour savoir quel sera le premier des outsiders ou, pourquoi pas, du leader du classement général à attaquer et à quel endroit. On va commencer avec toi, Jérôme. Tu vas donc nous donner le nom du premier attaquant du jour et à quel endroit va-t-il produire son accélération et son effort.
Alors, je vais dire, j'étais en train de réfléchir entre ce que j'aimerais et ce que je pense qui va arriver. C'est ouais. Pas pareil. J'aimerais que ça soit Romain Bardet dans Val-Louron avec la descente technique et d'enchaîner sur le dernier col. Ça, c'est ce que j'aimerais. Mais je pense que le premier attaquant, ça sera Dan Martin et au début de la côte de Val-Louron.
Dan Martin au début du
col de Val-Louron, la deuxième ascension de la journée.
Bon, Fred.
Le premier attaquant parmi les gros, c'est bien ça la question. Gros, ouais. Quintana au pied de la dernière montée.
Quintana au pied de la montée du col du Porté. Mmh. Est-ce que c'est au pied que c'est le plus difficile dans ce col du Porté? J'ai pas...
C'est après 1 km, il y a 3 km à plus de 10%, 10, 11, 12% de déclivité. Et c'est tout droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de replat, il n'y a pas de virage pour récupérer. Ça s'annonce un bel enfer. Vous parliez tout à l'heure du Mont Ventoux. C'est assez caractéristique du Mont Ventoux aussi. Ce début d'ascension. Notamment à la sortie de Bédouin, lorsqu'on attaque les premières pentes. Là, on parle bien du Mont Chauve en Provence, on ne parle plus du col du Portet. C'est assez caractéristique de ce type d'ascension, sans répit aucun. Ce n'est pas encore Lourdes-Otacam, hein, la montée d'Otacam qui monte tout droit avec des portions à plus de 15% et des replats ensuite. Ce col est beaucoup plus régulier.
Cyril, premier attaquant, et à quel endroit va-t-il produire son effort?
Lequel, pardon?
Premier attaquant du jour, premier parmi les il écoute pas ce qu'on dit. Il est pas du tout concentré aujourd'hui. Quel est selon toi? Donc je répète l'enjeu de
voilà,
notre petit
qu'on comprenne
voilà,
bien, oui.
Alors le monsieur te demande quel sera le premier attaquant parmi les gros bras du peloton à attaquer et où produira-t-il son effort?
Non mais c'est parfaitement compris.
Très
mais
bien, monsieur.
La réponse je peux pas la donner parce que est-ce qu'il va seulement y en avoir un?
Ah donc pour toi il y aura pas d'attaque. Pour toi, il y aura pas d'attaque.
Pour l'instant, je vois pas très bien comment ça peut se passer. À part les cinq dernières minutes.
Qui dans les cinq dernières minutes?
Je ne sais pas. S'il y en a un qui peut attaquer, ce sera Froome, mais les autres auront beaucoup de difficultés compte tenu du train imposé par la Sky.
Bah oui, il y a quand même la bagarre pour le classement général entre les deux équipiers de la Sky, Cyril.
Est-ce qu'il y aura une bagarre? Froome attaque.
Donc Froome, tu nous donnes Froome premier attaquant.
C'est Froome qui va attaquer.
D'accord, Froome attaquera donc à 5 km de l'arrivée, c'est ça?
Non, dans les 5 dernières minutes.
Dans les 5 dernières minutes, donc dans le dernier kilomètre. Oh là là, mais là, ce serait désespérant pour nous. Georges Quirino. Georges va aussi nous donner son pronostic. Premier attaquant, et à quel endroit?
Je suis complètement d'accord avec le druide. Sky va asphyxier tout le monde.
Bon, allez, on ferme les micros, on va se coucher, les gars.
Et Froome sera le premier attaqué parce que personne ne pourra sortir.
Home sera le premier attaqué, là aussi, dans les derniers kilomètres?
Non, dans les 5 derniers kilomètres.
Voilà. Et tu bâches le Tour de France ce soir, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, s'il se passe rien aujourd'hui, j'arrête le Tour de France.
Pierre! Ah ben là, ce serait le deuxième du général qui renverserait le premier.
À 2 kilomètres de l'arrivée. Bon,
s'il se passe rien, on repart tous les deux, alors.
Voilà, vous repartez tous les deux.
Et
tu t'occuperas de son bouton pendant quelques jours, pendant les vacances.
On parle bien d'un bouton de micro.
Un bouton de micro, évidemment.
Attaquer ne veut pas dire renverser le tour.
Non, je dis le premier qui produira, qui essaiera de faire bouger les choses.
Ce matin, Geraint Thomas comptait 1 minute 39 d'avance sur son dauphin, Christopher Froome.
Et Pierre-Yves Leroux, dernier à jouer à ce petit jeu. Pierre-Yves.
Eh bien, je vais vous donner en même temps mon favori pour l'étape, parce que c'est Tom Dumoulin qui va attaquer.
Tom Dumoulin qui va attaquer.
À la surprise générale.
Ah oui, là, ce serait quand même surprenant. Et où produira-t-il son effort?
Ferme les yeux, Pierre-Yves.
Là, dans 5 minutes.
Ah, dans 5 minutes? Oh, bah, il est optimiste. Oh, il est optimiste, notre barde.
Il a
là.
Complètement lâché la rampe, à mon avis.
Complètement. Bon, Yann Pécheral, il est aussi. Ah, bah oui, lui aussi veut jouer au jeu, notre petit jeu. Yann Pécheral qui se retrouve sur la ligne d'arrivée au sommet de ce col, au col
moi
du Porté. Yann,
toi aussi, Fred. Yann, se manifeste.
Il n'y a pas de raison, moi aussi je veux jouer, pourquoi vous jouez sans moi?
Bien sûr, mais on pensait que tu étais en train de faire la sieste à ce temps-là.
Mais alors la sieste, non, moi j'ai sorti le kawé et on commence déjà à être dans les nuages parce que c'est très gris, c'est très recouvert, il fait un petit peu plus frais. Il y a un léger crachin qui est en train de tomber, ça sera peut-être à prendre en compte aussi à l'arrivée parce que le temps est en train de se couvrir, le temps est en train de se gâter. Et je vais être d'accord avec Cyril sur Christopher Froome qui, s'il veut gagner le tour, il va falloir qu'il sorte aujourd'hui et dans la dernière ascension du col du Porté.
Dans la dernière ascension, mais au début du col ou dans les deux derniers
début
kilomètres
du col. Pas dans les derniers kilomètres comme Cyril, mais début du col.
Très bien, voilà, les paris sont pris. Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur le hashtag RMC Live. On verra celui qui aura eu le plus donné et on verra si notre druide a toujours raison, comme on le pense souvent, malheureusement, comme ça se vérifie régulièrement, Fred.
C'est quand même dommage d'en arriver à tenter de pronostiquer qui attaquera de loin les Sky. C'est révélateur quand même de ce qui se passe depuis le départ du Tour. On est un peu désabusé par la surpuissance de la formation Sky. Nous connaissions, voilà quelques années, l'équipe US Postal devenue Discovery. On a depuis quelques années la formation britannique Sky. Mais cette année, c'est vrai qu'elle est encore plus écœurante que les années passées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est rendu à ces subterfuges-là pour essayer de rêver à d'hypothétiques rebondissements. Pour l'instant, on n'a rien.
Mais Fred, y a-t-il eu une attaque de loin d'un des favoris du Tour de France depuis la victoire d'Andy Schleck, souvenez-vous, au Galibier en 2011, où il était parti dès le Galibier, dès le début de l'étape, assez rapidement.
Alors de loin, tout dépend de ce que l'on appelle de loin. On se souvient de l'attaque de Romain Bardet le jour de sa victoire à Saint-Gervais-le-Bettay.
Oui,
et c'était relativement loin quand même.
Oui, mais sous la pluie.
Sous la pluie, peu importe. C'était une attaque de l'un des prétendants au classement.
Oui, mais rappelons-nous les circonstances. L'attaque a lieu parce que d'un seul coup, il pleut. S'il ne pleut pas, il n'y a pas d'attaque.
La pluie qui est peut-être annoncée aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que Yann a jeté un œil sur les prévisions météo avant de s'aventurer là-haut à 2215 mètres d'altitude? Yann, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as pris la bâche et est-ce qu'il va pleuvoir tout à l'heure pour l'arrivée du Tour au col du Portet?
Alors, on nous a annoncé des orages d'abord à 15h, puis 16h, puis 17h. Là, c'est toujours un peu en train d'être reculé en ce qui concerne l'horaire. Maintenant, il y a une grosse brume qui est en train de tomber sur ce col du Portet. Quand on regarde tout là-haut, ben, on voit plus le bas. Alors que quand on est arrivé avec Jean-François Patureau tout à l'heure, il y avait encore un grand soleil. Donc, il y a cette énorme brume et il commence un petit peu à y avoir du crachin. Donc, on espère que ça va rester comme ça, que ça va pas tourner à l'orage. Mais effectivement, il y a quelques orages qui sont annoncés. C'est pour la fin d'après-midi.
Bon, t'es le seul à espérer qu'il n'y ait pas d'orage. Hein. Cyril attend ça avec impatience, il attend ça quasiment depuis le début du Tour.
C'est aussi parce que si tu voyais les conditions dans lesquelles nous sommes avec Jean-François Patureau, je peux t'assurer qu'on espère vraiment qu'il ne va pas y avoir d'orage.
Ils ont voulu prendre le téléphérique tranquille pour passer la journée en haut. Ils vont prendre la flotte sur la gueule.
Attention, messieurs.
Oui, Pierre-Yves.
La bagarre va débuter dans un instant puisque la montée de Peyresourde est terminée. Voici la montée de Peyragudes, elle va être courte, 1 km maintenant pour Kangert qui voit arriver derrière lui le trio à fond de train avec Julien Alaphilippe évidemment qui va essayer d'aller chercher les points. Vous le savez, comme d'habitude, quand il voit la banderole 1 km, il se sent pousser des ailes, Julien Alaphilippe, et c'est parti pour cette montée d'1 km maintenant pour aller chercher les points. La bagarre est déclenchée entre les quatre devant.
Voilà, la bagarre entre les 4 devant, mais pas entre les 4 derrière, ni entre les 15 derrière, évidemment. Heureusement que Julien Alaphilippe est là sur ce Tour de France pour nous permettre de monter un peu en température, Jérôme. Hein.
Ah oui, et quelle impression il a fait dans le col. Hein. Il a fait une grande partie du col, gros plateau. C'était le seul de l'échappée qui était gros plateau. Et il a fait mal à tout le monde, notamment à Nicolas Hédet qui n'a pas pu suivre le rythme. Donc voilà, je ne serais pas surpris s'il va récupérer Kangert avant le sommet et qu'il prenne un maximum de points en haut. Effectivement, Julien Alaphilippe qui, ces derniers jours, et notamment hier en direction de Bagnères-de-Luchon, lorsqu'il apercevait cette banderole sommet 1 km, déployait les ailes et s'envolait avec cette fréquence de pédalage et cette énergie qui lui est si particulière, si caractéristique. Julien Alaphilippe qui aperçoit Tanel Kangert sur cette montée de Peyragudes.
Il va avoir du mal, Fred.
Oui, c'est ce qui me semblait aussi.
Il va avoir du mal parce que il déclenche pas là et il reste plus que 600 mètres maintenant pour Kangert. C'est pas compliqué au niveau de la pente sur ces derniers mètres. Donc je pense qu'il va surtout contrôler pour aller prendre la deuxième place et prendre encore des points de toute façon. Et ses opposants dans cette lutte pour le maillot à poids ne sont pas là. Donc il fait de toute façon une belle opération encore.
Attention parce que Nairo Quintana est victime d'un incident mécanique, Fred.
Oui, effectivement, à l'arrière du peloton maillot jaune à 53 3 km de l'arrivée exactement pour ce groupe maillot jaune, ce peloton littéralement. Nairo Quintana, le Colombien de l'équipe espagnole Movistar, est victime d'une crevaison roue avant et il est dépanné par son équipier Andrei Amador. Nairo Quintana, 8e du général ce matin à 4 minutes 23. On vous rappelle qu'Alejandro Valverde, un autre leader de l'équipe Movistar, est dans une contre-attaque qui évolue exactement à 1 minute 10 de l'homme de tête, c'est-à-dire à un peu plus de 40 secondes de la contre-attaque au sein de laquelle se trouve Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui accélère l'allure à proximité du passage au sommet de la montée de Peyragudes, le passage au sommet dans quelques instants pour l'homme de tête, l'Estonien Tanel Kangard de l'équipe Astana.
Voilà, c'est Kangard qui va passer dans un instant en tête à la montée de Peyragudes et donc va engranger les points du classement de la montagne, les plus gros points. Julien Alaphilippe va sans doute sprinter pour aller décrocher les points de la deuxième place, ce qui lui permettrait d'asseoir encore un peu plus son maillot de meilleur grimpeur. Frère.
Oui, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce ne sont pas les grandes manœuvres qui est en train de déclencher Julien Alaphilippe. Il met tout de même ce point d'honneur à passer en deuxième position, juste devant ses compagnons de fugue, Christian Durasek, le croate de l'équipe Emirates, et l'ancien champion d'Espagne de l'équipe Cofidis, Jesús Herrada. Pierre-Yves s'est un petit peu enflammé, il s'est cru dans Pro Cycling Manager, le jeu vidéo où l'on peut faire attaquer les uns et les autres comme ça, virtuellement. Non, c'est du cyclisme bien réel que l'on a aujourd'hui, un cyclisme des années 2000, de l'année 2018 même, avec une formation Sky qui maintient la tête de course à un peu plus de 3 minutes seulement. Le rouleau compresseur blanc et noir, nous en parlions avant l'intervention de Pierre-Yves, est en train vraiment de contrôler la course.
Mais est-ce qu'on doit leur reprocher tous les maux de la terre à la formation Sky? Elle fait son boulot finalement. Est-ce que c'est pas aux autres aussi de faire leur boulot et d'attaquer, d'essayer de faire des choses quand même quelque part, Jérôme? Parce qu'on est toujours à taper sur la Sky. Mais Bardet, mais Dumoulin et les autres, Landa et compagnie, est-ce qu'il leur faudrait pas un peu les mettre sur la table quand même quelque part à un moment, non?
On espère qu'ils vont le faire. Moi, je tape pas sur la Sky parce que le principal, ça reste de gagner. Ils ont une équipe forte, ils roulent, ils gagnent le Tour de France. Froome l'a gagné 4 fois, donc voilà, leur stratégie est bonne. Maintenant, c'est aux autres d'essayer de déjouer la stratégie.
Ouais. Un nouveau problème pour Quintana, c'est ça?
Oui, Nairo Quintana qui peut-être a à nouveau crevé, ou en tout cas la roue que Andrei Amador lui a donnée ne convenait pas. Pourquoi, comment, on l'ignore, mais Nairo Quintana est dépanné une deuxième fois à l'approche du sommet de cette montée de Peyragudes. Il souriait, il s'esclaffait presque sur la ligne de départ tout à l'heure aux côtés de Christopher Froome, mais la journée de Nairo Quintana est beaucoup moins rose que ce qu'il semblait imaginer sur la grille de départ tout à l'heure.
Voilà, Nairo Quintana qui se met en danseuse pour tenter de rattraper l'arrière de ce groupe maillot jaune. Il y en a un qui nous manque, Cyril, et peut-être, ça aurait peut-être été le facteur X dans ce Tour de France, c'est évidemment Vincenzo Nibali qui lui est un attaquant hors pair et qui n'aurait pas hésité à tenter des choses, de loin peut-être.
Oui, ou tout du moins dans les descentes, mais je sais que Jérôme n'aime pas qu'on parle des descentes, mais les descentes c'est aussi des endroits où on peut attaquer, même si c'est pour amener des adversaires à la faute. Nibali manque énormément, d'autant que dans la montée de l'Alpe d'Huez, là où il a été victime de sa chute, il était quand même, il répondait aux attaques de Froome quand même ce jour-là. Donc il serait vraisemblablement placé dans les 3 ou 4 premiers ou 5 premiers maximum de ce Tour de France, et il n'aurait pas hésité à attaquer. Peut-être d'ailleurs que ça aurait pu inciter également Romain Bardet à essayer de l'accompagner, mais voilà. Bon, le premier col a été escamoté puisque l'homme de tête va passer avec près de 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, que les groupes de lâchés sur les premiers kilomètres sont en train de reprendre place dans le peloton. Donc premier col effacé.
Et Geoffrey sur le hashtag RMC Live nous dit: il faut faire un autre jeu concours, qui piquera du nez en premier et à quel moment de l'étape, qui attaquera la sieste en premier, Jérôme?
Bah, je crois que tout à l'heure le druide était déjà dedans, non? Donc je pense qu'il a déjà perdu.
Voilà, Pierre-Yves, tu nous annonçais l'attaque de Tom Dumoulin tout à l'heure, c'est ça?
Oui, je me serais-je trompé?
Étonnant, non?
Mais en tout cas, attention, nous sommes dans la descente, Christophe, et il y aura une vision, peut-être pas d'horreur, hein, mais vision sur le col final, la montée vers Saint-Lary-Soulan, pour tous les coureurs dans un instant, en phase 2, légèrement sur leur gauche. Tous les camping-cars sont là, c'est vraiment impressionnant. C'est le dessert de cette journée, et il fait quand même peur à voir.
Messieurs, j'ai une excellente nouvelle pour l'intégral tour de 19h à 20h tout à l'heure. Animé de main de maître par toi, Christophe. Anthony Turgis, me semble-t-il, a attaqué les skies en haut de Peyragudes, à la montée de Peyragudes.
Ben voilà, Anthony, il vient de
basculer juste devant les skies, sans doute pour se faire plaisir dans cette descente de Peyragudes. Le néophyte du Tour de France de l'équipe Cofidis, que nous avons la chance d'entendre tous les soirs dans l'intégral tour aux alentours de 19h20-25, cela dépend des jours, aura peut-être quelque chose à nous révéler ce soir.
Georges des choses à nous dire également. On vient de voir Julien Alaphilippe dans la descente là actuellement de Peyragudes, qui est dans son style caractéristique là qu'on voit plus souvent assis sur le tube horizontal. Ce matin, Dan Martin a tweeté, l'Irlandais leader de l'équipe Emirates, il s'adresse à l'UCI. Cher UCI, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de bannir cette nouvelle technique de descente où l'on est assis sur le tube horizontal, parce que les cyclistes professionnels ont les capacités de le faire, mais combien d'enfants qui sont devant leur télé voient ceci et ne sont pas capables de le refaire derrière et vont peut-être avoir l'envie de le faire en voyant ce que les pros font la télé.
L'exemple des professionnels n'est pas forcément le meilleur exemple, donc effectivement, remarque intéressante. Cyril, tu ouvriras ton micro juste après les infos de 16h, parce que là on va devoir se quitter quelques instants.
Ça ferme alors.
Voilà, tu peux la fermer, et puis on te retrouve tout à l'heure pour la suite de cette étape bien décevante jusqu'à présent. Il reste encore 45 km, 20 km ont déjà été parcourus par les coureurs du peloton. On rappelle que c'est Kanger qui est en tête de la course. Fred, avec combien d'avance?
10 secondes seulement sur Julien Alaphilippe et notamment le Croate Durasek. Alaphilippe, auteur d'une descente de funambule hier en direction de Bagnères-de-Luchon. Il est peut-être en train de retomber dans les minutes qui viennent sur Tanel Kangert. Bientôt le maillot à pois, sans doute en tête de cette étape si
particulière. Les infos de 16h dans un instant, on se retrouve juste après.
RMC Intégral Tour.